Saint Joseph chez les grévistes. Cette histoire, rigoureusement authentique, s'est passée à Marseille en février 1948. Le grand port méditerranéen possède, en 78 de la rue Stanislas-Doran, une vaste école populaire fondée par Don Bosco lui-même en juillet 1878. Le saint donna à ce nouvel établissement le nom d'oratoire, comme il avait baptisé son œuvre de Turin, et le mit sous la protection de saint Léon, en hommage à l'illustre pontife qui gouvernait alors l'Église. Léon XIII. Toutefois, le petit peuple n'usa guère de ce vocable un peu long et compliqué, et il ne tarda pas à appeler tout bonnement cette maison Don Bosco. Ce nom est même devenu à Marseille, comme d'ailleurs un peu partout, une manière de formule magique, le sésame ouvre-toi, des portes les plus soigneusement verrouillées. Et si d'aventure le bon Saint Joseph se joint à Don Bosco, alors c'est l'effondrement de tous les obstacles. Ce modeste récit va vous en donner la preuve. En cet hiver 1948, une grève violente et prolongée enserrait la ville de Marseille comme dans un étau. Des piquets de grève avaient été installés un peu partout, interdisant sévèrement toute activité jugée contraire aux revendications des grévistes. À l'entrée de toutes les grandes voies donnant accès du dehors à la cité, convois et simples camions étaient impitoyablement refoulés. La situation, comme on le voit, était critique. C'est alors la plus sombre de ce blocus économique que l'oratoire Saint-Léon tomba en panne sèche, non point d'essence, mais de charbon. La sœur chargée de la cuisine avait lancé un SOS au père économe, l'avertissant par téléphone qu'elle n'avait de combustible que pour un seul repas. Or, elle avait 300 bouches à nourrir matin, midi et soir. D'un bond, le brave père fut auprès du fourneau, mais sa présence ne changea pas d'un iota la situation. C'est alors qu'une des religieuses présentes, voyant son embarras, lui dit « Mon père, il n'y a pas à hésiter, mettons Saint-Joseph dans le coup, il nous tirera d'affaire. » Et joignant le geste à la parole, la bonne petite sœur, qui était aussi riche de foi que d'années, prit un des derniers blocs de charbon qui se trouvait là et le plaça d'un air décidé au pied même de la statue du bon patriarche de Nazareth. Ce geste accompli, elle ajouta « Maintenant, nous allons prier de toutes nos forces. Pendant ce temps, faites vos démarches. » Le père économe, un peu abasourdi, tourna les talons, puis, prenant son béret en traversant son bureau, s'en fut droit au piquet de grève du quartier. À l'entrée du local régnait une imposante matrone à la vaste poitrine, aux hanches puissantes, le type classique de la poissonnière marseillaise. Le père savait, par expérience, que si les membres de cette corporation ont un cœur d'or, ils possèdent par ailleurs un vocabulaire aussi vert que pittoresque. Sans avoir l'air trop ému, le brave prêtre risque tout de même un « bonjour madame » qui l'accompagne du plus large des sourires. « Bonjour monsieur le curé » répond la fidèle gardienne des lieux. « Je voudrais voir les membres du piquet de grève, ses personnels. » « Impossible. Les ordres sont formels. »« Mais je suis de Don Bosco, madame. » « Alors, dans ce cas, montez, » dit la petite mère soudain attendrie. « Ils sont là-haut. » D'un pas alerte, le père nourricier de l'oratoire gravit en quelques secondes les marches qui le séparaient de ces messieurs. Arrivé devant la porte, il frappa, puis entra. Ils étaient bien là, en effet, occupant une pièce enfumée, cigarette au coin des lèvres et casquette sur l'oreille. L'obstacle s'annonçait d'importance. « Bonjour, messieurs, » clame le père d'un air qu'il s'efforce de faire paraître dégagé. « Jour, » lui répondit-il vaguement. quelques lèvres collées à leur gauloise. Celui qui devait être le chef apostrophe alors le père. « Vous désirez, monsieur le curé ?» L'interpellé explique de son mieux, d'une voix plutôt timide, le malheur qui lui arrive. « Sa cuisinière n'a plus de charbon pour ce soir. Il a 300 bouches à rassasier. Il vient en toute confiance demander qu'on le dépanne. » « Impossible, monsieur le curé, » répond le chef d'un ton résolu. « Nous avons des consignes. Il faut les respecter. C'est dans l'intérêt de tous nos camarades. » Le père, sentant qu'il va perdre la partie, invoque alors Saint-Joseph, dont il voit en esprit la statue ornée de son bloc noir, puis, résolument, fonce sur l'obstacle. « Messieurs, dit-il, je suis l'économe de Don Bosco. Je pense qu'il y a parmi vous des pères de famille. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Grève ou pas grève, les enfants ont-ils le droit de manger à leur faim? Et si l'un de vous avait un garçon chez nous, cela se pourrait, puisque nous n'avons que des fils d'ouvriers. Serait-il content de savoir que ce soir, il irait se coucher l'estomac vide? » Cette éloquence du cœur, doublée dans la coulisse du généreux appui de Saint-Joseph, fit immédiatement mollir les oppositions. « Puisque c'est ainsi, monsieur le curé, dit le chef, on ne peut pas vous refuser ce service. Je vais vous signer un billet. Allez le présenter telle rue à tel dépôt. Vos enfants mangeront chaud et ce soir. » En un tournement, le laisse-passer fut paraphé et remis au prêtre, dont le cœur bondissait de joie. De sa rude poigne d'ancien pégé, l'économe serra avec effusion la main des membres du comité, puis redescendit l'escalier encore plus rapidement qu'il ne l'avait monté. La virago de garde vit passer en trombe une soutane brandissant un papier. « Il a enlevé le morceau, » pensa la bonne femme. « Tant mieux, ça devait être pour ses gosses. » De fait, quelques heures plus tard, un énorme camion arrivait à l'oratoire, riche de tous les espoirs qu'on avait mis en lui. Du coup, la petite sœur s'élança vers la statue et, enlevant le bloc de charbon des pieds de Saint-Joseph, elle le remplaça d'un geste reconnaissant par un bouquet de fleurs fraîches. Ayons donc bien confiance en Saint-Joseph, qui est notre Père.